En préambule, avant tout le reste, j'avais envie de commencer par un petit sondage et je voulais voir un peu dans la salle qui parmi vous se considère comme audacieux. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On est un peu en dessous de 50%. Alors, sachez qu'un sondage récent qui a été commandé pour ce salon a révélé que 86% des Français estimaient qu'il fallait de l'audace pour créer ou diriger une PME en France. Et si vous êtes dans la salle, on voit que pour arriver à 86, si on est à peine à 50, il y a un petit gap. Alors c'est tout l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, c'est de donner envie, de vous donner envie, de vous lancer à votre tour et d'en finir avec le « j'aurais dû » pour ne plus jamais avoir à prononcer la phrase « j'aurais dû ». On est là pour vous inspirer, pour vous donner envie de vous jeter à l'eau, d'aller plus loin et de montrer que l'audace, ça se travaille, ça s'acquiert, même si on n'a pas toujours le sentiment d'en avoir assez. Alors avec nous, pour développer ce thème, j'ai le plaisir de vous présenter, dans l'ordre alphabétique, Moed Altrad. Alors Moed Altrad, vous êtes le président de l'entreprise à laquelle vous avez donné votre nom, qui est devenu un leader européen des services à l'industrie et à la construction. Le grand public voit souvent des échafaudages ou des bétonnières sur les chantiers qui portent votre nom. C'est vous qui en êtes à l'origine. Et vous êtes également le président de l'agence France Entrepreneur, le président du Montpellier Hérault Rugby et le premier Français à avoir remporté l'année dernière, en 2015, le prix mondial de l'entrepreneur de l'année décerné par le cabinet EY. Je me tourne vers vous, Anne-Laure. Anne-Laure Constanza, bonjour. Vous avez créé en 2006 Envie de Fraise, la première marque de mode à s'être développée uniquement sur Internet en France. Depuis 10 ans, vous avez changé la façon dont les futures mamans s'habillent grâce à des collections tendances et abordables. Vous avez également reçu de nombreux prix, dont le Girls in Tech en 2015 et le Grand Prix des entreprises de croissance en 2016. Alexandra Dublanche, bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France où vous présidez la commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation. Vous êtes également conseillère communautaire adjointe au maire de Sartrouville dans les Yvelines. Vous connaissez bien les attentes des entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, d'autant que vous avez vous-même créé une boîte, puisque vous êtes en effet la cofondatrice de FederaVox, un logiciel d'aide à la mobilisation des électeurs. Antoine Moineville, vous êtes un alpiniste, alors c'est pour ça que vous ne portez pas de cravate, vous avez un look un peu décalé. Vous êtes alpiniste, vous avez des idées bizarres, puisqu'en plus des ascensions verticales, vous avez décidé de vous promener en montagne à l'horizontale sur des sangles tendues au-dessus du vide. Et on verra un petit film tout à l'heure. Vous avez créé les Flying Frenchies, un groupe de funambules, d'acrobates, d'artistes, et vous réalisez ensemble des shows aériens absolument extraordinaires. Vous avez également réalisé un film relatant vos exploits collectifs qui s'appelle Métronomique et qui a été primé lors de plusieurs festivals de films de montagne. Et enfin, je me tourne vers vous, François Moutot. Vous êtes le directeur général de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Les chambres de métiers et de l'artisanat, on va dire CMA pour faire plus court, accompagnent les porteurs de projets et vous sensibilisez notamment tous les futurs chefs d'entreprise aux rudiments de la gestion, de la comptabilité, du droit. Bref, vous les armez, vous leur donnez les outils afin qu'ils puissent libérer leur audace sans prendre de risques inutiles. Voilà, vous connaissez maintenant les participants de cette conférence plénière. Je vous rappelle que vous êtes invités tout au long de cette conférence à tweeter avec le hashtag SalonSME. Et alors je crois qu'on a maintenant un petit film qui va vous présenter les exploits ahurissants d'Antoine Moineville. Donc Antoine, pour que la salle visualise, vous êtes devenu un spécialiste de la Highline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la Highline ?
Oui, je voudrais resituer, je suis là aussi au nom d'un groupe qui s'appelle les Flying Frenchies. Je n'ai pas fondé, j'ai co-fondé.
Co-fondé.
C'est une histoire d'équipe, c'est une histoire d'amis, et c'est une grande famille. Voilà, donc je voulais repréciser ça. Donc la Highline, je ne sais pas si vous avez un petit peu vu des images, un peu, on commence à en voir un peu à la télé. C'est comme du funambulisme, sauf que ça ne vient pas du milieu du cirque, où ils ont plutôt l'habitude de marcher sur des fils d'acier. La slackline, ça vient plutôt de l'escalade du monde de la grimpe, et on marche sur des sangles en nylon. Voilà, et du coup, ça a été pour nous une véritable révélation pour cette équipe, pour cette famille de copains. On s'est réunis autour de ce fil et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien imaginer avec ce fil, en plus de simplement marcher dessus entre deux arbres. Du coup, avec nos compétences diverses et variées dans cette équipe, on s'est tout de suite retrouvé à l'étendre en haute montagne. Du coup, on a appelé ça Skyline, on a été assez pionniers de tout ça. Et on a fait ça à une époque où tout était à faire, et de l'installation du fil, par exemple, et valider un peu la sécurité de tout ça. Voilà, on était un peu hors des cases, et la suite de l'histoire des Flying Frenchies, c'est qu'on est encore et toujours hors des cases et hors des sentiers battus.
Voilà. Alors justement, moi j'avais envie de vous demander, tendre une sangle souple, parce que contrairement à un câble de funambule, la Highline, c'est souple. À oui. Plusieurs dizaines de mètres d'altitude en haute montagne, est-ce que c'est de l'audace ou est-ce que c'est de la folie ?
Non, oui. Alors, il y a forcément une part de folie, mais c'est de la folie douce. Parce qu'il faut quand même avoir un petit grain pour avoir envie d'aller tenter des choses un peu nouvelles. Où on n'a aucune information, il faut avoir un petit grain quand même. Mais ce ne serait pas de la folie furieuse, c'est de la folie douce. Après, l'audace... Oui, c'est bien évidemment de l'audace, mais on prend pas tant de risques que ça, parce qu'on a fait ça par étapes. Avant de l'étendre à plus de 4000 mètres d'altitude dans le massif du Mont Blanc, on a d'abord testé ça dans les gorges du Verdon, où il y a deux minutes de marche d'approche, on est à côté de la maison. Il y a eu des phases de laboratoire, on a étudié un peu la question avant de pousser ça, on a fait ça par étapes. Et voilà, après, une fois que tu sais que la sécurité est là, tu peux tenter de marcher, et la chute est autorisée, à condition qu'on garde un leash. Et tout ce temps que vous êtes dans la salle, vous êtes largement en mesure de au moins aller vous asseoir sur le fil. Voilà, c'est pas quelque chose qui... sauf peut-être les gens cardiaques.
Alors je crois qu'il y en a une qui est tendue, alors à quelques dizaines de centimètres du sol, quelque part dans le salon, hein, il me semble avoir entendu ça.
Ah ben voilà, ben sinon, ben oui, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Et ça c'est première étape, voilà, première étape, c'est bien de commencer à quelques dizaines de centimètres du sol, et petit à petit, c'est pas un sport de super-héros, c'est quelque chose qui s'apprend, comme beaucoup de choses, comme monter une entreprise, c'est quelque chose qui s'apprend, et voilà, si vous voulez aller tenter votre équilibre sur ce petit fil à 10 cm du haut, eh bien c'est un bon premier pas.
Voilà, alors, prendre confiance, ça s'apprend. Je me tourne vers vous, Moed Altrad, puisque en tant que président de l'agence France Entrepreneurs, vous avez pour mission de développer la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires, appelés aussi territoires fragiles. Et je me demandais, comment fait-on pour donner envie de se lancer à des gens qui se sentent exclus ?
Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, quant à votre question, je ne suis pas sûr que je sois audacieux d'avoir quitté le désert pour venir en France. Donc c'est une bonne question. Après... Lorsqu'on parle d'audace, je pense qu'il faut lier ça à une période d'insécurité, à une période qu'on appelle de crise. Je rappelle que le mot crise, en latin, signifie trouver une solution. On dit crise, c'est trouver une solution. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le sens qui est donné à ce mot-là, ce n'est plus la même chose. Crise, c'est crise. Et finalement, c'est un mur qu'on a du mal à voir au-delà. Donc, quant à l'agence France Entrepreneurs, c'est une initiative du président de la République qui m'a confié il y a un an. Il s'agit d'aider ce qu'on appelle les quartiers sensibles, les quartiers prioritaires de la ville. Il y a beaucoup de définitions, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la définition, quel que soit le périmètre, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'à peu près 1500 zones qu'on a en France. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces zones-là ? On trouve 11,5 millions de personnes qui y habitent. On trouve un taux de pauvreté trois fois plus important que la moyenne nationale. On trouve 70% d'inactifs. Ça ne veut pas dire au chômage, c'est-à-dire des gens, une famille de 5-6 personnes qui habitent peut-être dans 100 mètres carrés. Où le grand-père, il n'a pas de job, mais il n'est pas au chômage non plus, c'est une question d'âge, mais quand même, 70% d'inactifs. On trouve 26% de taux de chômage. Comme je l'ai dit, trois fois plus de pauvreté. Et quelque chose d'intéressant, on trouve deux fois plus de création d'entreprises qu'ailleurs. Donc c'est audacieux quelque part.
Voilà, il y a une envie de s'en sortir.
Envie de créer, envie de se sortir. Donc voilà, on trouve aussi, je peux vous citer beaucoup de choses relatives à ces quartiers. c'est, par exemple, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de djihadistes qui partent de ces régions, qui partent en Syrie, etc., à mon pays natal. Ben, c'est tout ce genre de choses. Donc, pour aller à l'essentiel, le président de la République a dit ou a souhaité qu'on organise l'action nationale dans le pays, donc pour aider, venir en aide à cette population et créer le maximum d'entreprises en très peu de temps, évidemment, comme il l'a souhaité. Ceci dit, la situation, comme je viens de la décrire, est compliquée, elle n'est pas facile. Il y a un travail de fond et de ce structurant qui n'a pas été fait depuis un demi-siècle, qui n'a pas été fait réellement. Et on comprend les raisons pourquoi ce n'est pas fait. Il faut avoir, vous parlez d'audace, mais aussi on peut parler de courage. Le courage d'aller dans ces quartiers-là où on trouve beaucoup de misère, on trouve beaucoup, beaucoup de choses qui normalement nous incitent à aller vers ces quartiers. Le courage, c'est vaincre la peur, aller au-delà. Mais c'est aussi, ça va avec l'audace. On ne peut pas être audacieux si on n'est pas finalement courageux. Le courage, c'est inhiber ses inhibitions finalement et aller trouver des ressources pour aller vers l'autre, aller vers une population de 11,5 millions de personnes.
Donc est-ce que ces populations ont conscience qu'on peut repousser ses limites, qu'on peut sortir de sa zone de confort, ou est-ce qu'il faut leur montrer, les accompagner, les prendre par la main ?
Il n'y a pas de zone de confort, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est en difficulté, qui est en souffrance, qui se lève le matin et ne sait pas ce qu'il va manger dans la journée, il se lève la peur au ventre, il se lève parce qu'il y a une violence dans le périmètre familial, il se lève parce qu'il n'a aucune visibilité dans l'avenir, il se lève parce que il se pose la question pourquoi il est en France, pourquoi on lui a donné un passeport français. Vous avez 11,5 millions de personnes qui sont, je voulais de vous dire, qui sont, si vous prenez la première, la deuxième, la troisième génération, sont tous émigrés comme moi. Ils n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir le côté audacieux, courageux, voire téméraire aussi, parce que lorsqu'on est audacieux, on peut être aussi, on a un côté téméraire, on a aussi un côté pas prudent, etc., etc. Donc c'est très difficile, si vous voulez, pour cette population. Lorsque vous voulez entreprendre et lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut que vous ayez un peu d'espoir. Et je dis, ce que veut cette population, ce n'est pas forcément une aide matérielle, ce n'est pas forcément une aide technique. C'est parfois, ce sont des paroles. Vous faites partie du pays. Vous faites partie intégrante de la France. La France n'est pas un pays raciste, parce que la France a une bonne partie de sa population qui est capable d'intégrer, difficilement certes, mais intégrer quand même une population qui aurait été peut-être en souffrance si elle était restée dans ses pays, son pays natal.
Et votre mission, c'est d'aller porter cette parole avec votre parcours, avec votre expérience ?
Première chose, c'est effectivement aller dans ces quartiers où parfois c'est compliqué, parfois c'est dangereux, effectivement. Parfois on est mal reçu. J'ai la chance d'être accepté par cette population, parce qu'elle a probablement, elle s'identifie à moi, parce que je fais partie de cette population, mes origines, mon histoire, mon passé. Même ma façon de vivre aujourd'hui, elle s'apparente à ce qui se passe dans ces quartiers. Donc je suis un des leurs, mais j'oublie pas ce que je suis réellement. Je suis un citoyen à qui la France a tout donné, à qui la France a aidé, à qui la France lui a permis de faire ce que son propre pays n'a pas pu faire. Donc pour répondre à votre question, Monsieur Ferrer, c'est effectivement, j'apporte ça, mais pas uniquement. La parole ne suffit pas. Parfois, il faut aller au-delà. Alors l'aide, elle est technique, elle est matérielle, mais c'est aussi, elle est structurelle, mais c'est aussi, elle est administrative, elle est multiforme, donc, alors... Si vous regardez dans le budget de la nation, vous avez des sommes considérables qui sont allouées, qui sont censées aller dans ces quartiers-là. Il y a très peu un pourcentage limité qui va effectivement dans ces quartiers. où est-ce que ça va? Eh bien, ça va dans l'arborescence nationale, et puis ça descend très difficilement. Et puis, à un certain moment, on a un projet entre la main.
Alors, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui vous ont marqué, de gens qui se sont lancés, qui ont créé des entreprises intéressantes dans ces quartiers?
J'ai oublié de vous le dire, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Vous avez deux fois plus de création d'entreprises dans ces quartiers, sauf que ça disparaît deux fois plus, voire trois fois plus. Pourquoi? Parce que très souvent, on n'est pas formé et on n'est pas financé. Donc c'est un cocktail qui nous conduit directement à l'échec. Donc l'idée, si vous voulez, d'apporter l'information, mais c'est aussi de canaliser l'ensemble des financements. Je vous ai parlé de 2,5 milliards dans le budget de la nation qui doivent arriver, mais il y a beaucoup d'autres aides qui viennent s'ajouter. Il s'agit, mon rôle, à travers l'agence France Entrepreneur, de fédérer l'ensemble des associations, de dialoguer avec les différents ministères, ce que je fais depuis un an, mais c'est aussi de trouver des actions transversales à travers les nouvelles régions, à travers les départements, à travers les collectivités locales, à travers, je l'ai dit encore une fois, je le redis, Pôle emploi. Lorsqu'on vous dit, vous êtes dans un quartier de ce style, vous êtes au chômage, on vous donne un prêt d'honneur de 5 000 €. Mais vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas informé, votre projet n'est pas défini, votre marché n'est pas défini, mais vous avez toutes les chances de ne pas réussir.
Justement, je me tourne vers vous, François Moutot, dans les CMA, et vous, Alexandra Dublanche, qu'est-ce qui existe comme dispositif pour libérer l'audace et surtout atténuer le sentiment de solitude de la personne qui veut se lancer?
Si vous voulez... Quand un créateur d'entreprise franchit le seuil d'une chambre des métiers, je pense qu'on a déjà gagné le dossier à moitié. Parce que quand il arrive, c'est déjà de l'audace de venir présenter son dossier, c'est déjà de l'audace de se dire « je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va me juger et me jauger ». Effectivement, les chambres de métiers sont là ni pour juger mais pour jauger, mais peuvent être ressentis comme ça. Et depuis une dizaine d'années, on a essayé de modifier cette approche et de faire des gens qui rentrent dans les chambres de métiers de véritables clients. Un client, c'est quelqu'un qui a un projet, mais c'est quelqu'un qui a besoin, on vient de l'entendre, d'être accompagné dans l'approche de sa profession. C'est pas toujours avoir quelque chose dans la main, c'est pas forcément un acte économique. Donc il faut transformer la capacité de travail en capacité de création économique. C'est pas si simple que ça. Ensuite, évidemment, il y a l'écueil de la gestion. Il y a l'écueil de savoir que l'argent qui arrive dans votre poche, c'est pas tout du bénéfice. Il y a un peu d'argent qui va partir à droite et à gauche. Il faut y penser. Il faut un calendrier. Il y a un certain nombre de métiers. Pour moi, si vous voulez, le créateur, c'est à la fois un mélange d'audace et de réflexion. Et si on veut vraiment réussir, c'est ça. Et les chambres de métiers, comme d'autres structures, et notamment, il faut le dire, les comptables et les experts comptables, sont là pour accompagner le créateur d'entreprise dans son projet, mais aussi dans le développement de son projet. Parce que ce n'est pas tant le projet en lui-même. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a beaucoup de créateurs d'entreprise. Ce qui compte, c'est celui qui, au bout de 3 ans, sera encore là et sera sur le chemin de l'embauche d'employés, de telle façon d'avoir un véritable développement d'entreprise. Et donc, il faut l'accompagner, il faut... Évidemment, on a un stage préalable à l'installation, c'est un préalable. Vous disiez en termes élogieux ce que nous faisons. Moi, je trouve que on fait encore pas tout à fait ce qu'on voudrait. Je pense qu'il faudrait qu'on aille plus loin dans l'accompagnement, et notamment des clubs de créateurs d'entreprises, qu'il y ait des échanges entre personnes qui ont la même expérience, parce que nous sommes peut-être des sachants, mais nous ne sommes pas ceux qui portons les projets à nous-mêmes. Donc on essaye de mettre ensemble des créateurs d'entreprises pour qu'ils s'accompagnent. Alors ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est ça. Et donc quand il y a une difficulté, vous l'évoquiez, il faut qu'il y ait des gens de référence en termes techniques, mais aussi des gens qui ont vécu cela, et on tient beaucoup à avoir des expériences, des retours sur expérience.
Alexandra, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose sur les dispositifs sur lesquels vous travaillez ?
Oui, alors je pense que monsieur l'a dit, ce que réclament les entrepreneurs, enfin, quand on les rencontre, c'est pas forcément plus d'argent public. Ils nous disent un peu « laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire notre métier et simplifiez-nous la vie ». Donc pour nous, le rôle, je pense, du secteur public et de la région en particulier que je représente aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter la vie des entrepreneurs. Il y a plus de 10 000 lois en France, plus de 400 000 normes, plus de 120 000 décrets. Enfin, il faut vraiment simplifier tout cela. Et nous, ce qu'on a commencé à faire à la région, c'est simplifier cet accès aux aides et renforcer cet accompagnement. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont déjà essayé d'obtenir une subvention de la région. Jusqu'à présent, c'était extrêmement compliqué. On ne sait pas à qui s'adresser. Il y a énormément de portes d'entrée. C'est très complexe. Et donc voilà, nous, on essaye de simplifier tout ça. On est passé d'une dizaine de dispositifs à 4 dispositifs uniques. Alors j'en profite pour vous parler d'un des dispositifs qui peut vous intéresser dans la salle, qui s'appelle TPUP, donc pour les TPE qui se créent avec des prêts. Et également, nous, notre rôle pour libérer cette audace, c'est vraiment d'accélérer le rythme de l'administration, parce qu'on sait très bien que quand on crée une boîte, on ne peut pas vivre au rythme de l'administration qui vous dit votre aide, elle arrivera dans 6 mois ou dans 1 an, ça va pas. Donc ça aussi, on l'a modifié. Maintenant, on a une instruction des dossiers au fil de l'eau et on essaye d'être beaucoup plus réactif. Et enfin, je pense que quand même, aider les entrepreneurs à leur faciliter la vie, c'est également leur trouver des clients et des débouchés. Et là aussi, le secteur public a énormément de marchés qui, par exemple pour la région, c'était très fermé aux PME jusqu'à présent et aux petites entreprises. Nous, on va ouvrir ces marchés aux TPE, aux PME, pour qu'elles puissent avoir également des débouchés et grandir.
Alors Anne-Laure Constanza, je me tourne vers vous. Quand vous vous êtes lancée, est-ce que vous avez eu besoin d'appui particulier ou est-ce que vous êtes lancée dans le grand bain toute seule en disant « bon, on verra un jour après l'autre ».
Alors pour revenir à ce que vous disiez en préambule, je crois qu'on ne naît pas audacieux, on le devient, vraiment. Et je crois que ce sont les succès, les échecs qui nous façonnent et les petites réussites du quotidien qui nous donnent confiance et qui renforcent notre personnalité finalement. Moi, mon audace avec Envitrait, ça a été de m'écouter. Je venais de passer 10 ans en Chine et je venais de vivre un échec cuisant de ma première aventure entrepreneuriale. Et donc cet échec m'a permis d'aller au fond de moi-même et de bien comprendre ce que j'avais envie de faire en fait. Donc je rêvais de créer une marque de mode à l'époque et enceinte de mon premier enfant, j'ai découvert la pauvreté de l'offre sur le marché des vêtements de grossesse et donc j'ai eu envie de créer une marque à la fois fraîche, gaie, pétillante et accessible en termes de prix. Ma deuxième audace, ça a été finalement de l'audace d'y croire envers et contre tous. Ça, c'est vraiment une dimension hyper importante. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises ici.
Quand vous dites contre tous,
on subit énormément les pressions négatives de l'entourage. C'est toujours très compliqué. Quand je me suis lancée en 2006 pour être crédible auprès des investisseurs, c'était à l'époque où on pensait que l'e-commerce était un Eldorado. Pour être crédible, il fallait avoir une équipe de fondateurs solide, un bon background école de commerce, sur un marché, donc sur une cible que l'on pouvait fidéliser, et tout en distribuant les plus belles marques du marché. Voilà, donc ça c'était vraiment les critères de succès pour réussir dans le e-commerce en 2006. Et moi j'ai créé Envitrait seule, avec un diplôme de chinois, avec la volonté de distribuer ma propre marque, non pas celle des autres, sur Internet, et sur un marché sur lequel tout le monde avait échoué, et surtout une cible qu'on ne pouvait absolument pas fidéliser, les femmes enceintes. Voilà, donc ça a été un peu l'audace d'y croire, envers et contre tous. Il y a une phrase de Confucius que j'aime beaucoup, moi j'ai vécu donc 10 ans en Chine, et qui m'a toujours un peu guidée, c'est quand tu fais quelque chose, sache que tu as contre toi ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire, et surtout ceux qui ne veulent rien faire. La notion aussi de libérer ses freins psychologiques, je pense que c'est très important. Et encore une fois, ce sont les petits succès du quotidien qui nous façonnent et qui font qu'on a envie d'aller plus loin, de prendre encore plus de risques et d'essayer de réussir.
Alors, je me tourne vers vous, Moed Altrad. Anne-Laure nous parlait de la vision très précise qu'elle avait quand elle s'est lancée. Vous, quand vous avez créé votre première entreprise, puis racheté la première entreprise, est-ce que vous aviez déjà une vision très précise de là où vous vouliez aller ?
Absolument pas. Vous savez, le chemin s'éclaircit au fur et à mesure qu'on avance dans le chemin, justement.
Ça, je trouve que c'est très important de le rappeler à des gens qui n'ont pas forcément encore franchi le pas.
Ce que je voulais vous dire également, c'est que il n'y a aucune réussite. Où dès le premier jour, on vous dit 30 ans ou 40 ans ce qu'on allait être, parce que c'est pas vrai. Par contre, on peut, à défaut d'avoir des choses précises, des chiffres, des choses rationnelles, des choses pragmatiques, on peut avoir une direction, on peut avoir une orientation. Mon histoire rapide, c'est que j'ai appris le français dans ce pays, j'ai fait des études scientifiques pour aboutir à un doctorat d'informatique. Et un jour, je travaille dans des sociétés, notamment Alcatel et Thomson, qui s'appelle aujourd'hui Thales. Et un jour, dans ma maison de vacances, dans le sud de la France, un voisin me dit « est-ce que ça t'intéresse pas d'acheter une entreprise, un échafaudage qui est en faillite ?» C'est la première fois où j'entends le mot échafaudage. Je sais pas ce que ça veut. Alors il m'explique, il me prend par la main, on va visiter l'entreprise. J'ai trouvé des atouts très intéressants dans cette entreprise. Et j'ai vu une sorte de quelque chose qui pourrait éventuellement, mais avec beaucoup de conviction que j'avais intuitif, lorsqu'on vient d'un domaine scientifique tel que l'informatique, on est en 1985, donc l'informatique était vraiment très modeste à l'époque, eh bien on n'a pas autre chose, on n'a pas des moyens techniques, on ne connaît pas la comptabilité, la finance, etc. Mais on a cette volonté et on a cette intuition, mais c'est aussi, on a cette envie de réaliser quelque chose, ce que vous appeliez, je pense dans votre discours, un peu l'audace. Je savais que j'allais y arriver, je savais que j'allais réussir, mais je savais qu'il y aura beaucoup de difficultés. Donc la difficulté en soi, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas quelque chose qui doit être inhibé. L'ambition, le succès, je l'ai dit, je le répète, c'est la réussite. Vous n'allez pas l'atteindre en un jour. Il n'y a aucun domaine, aucun métier, aucune personne, quel que soit l'univers, quel que soit le secteur auquel vous vous attachez, n'a réussi du premier coup. Le succès, les grands succès, c'est un ensemble, c'est une succession de petits succès. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vous dit « je suis incapable de courir à 200 mètres par jour ». Ben, je suis sûr qu'il va aller courir, celui-là. Et si tous les jours, une autre amie qui marche sur qui marche sur des choses impossibles, inaccessibles pour nous, eh bien, il l'a fait. Mais nous aussi, je vous encourage pas à faire ce qu'il fait parce que c'est très dangereux. Mais par contre, grimper de quelques centimètres en termes de saut, faire quelques mètres de plus, mais c'est ça finalement le succès. Mais c'est aussi la répétition de ce genre de choses, des petites choses qui feront qu'un jour vous allez réussir.
Et qui donne confiance.
À mesure que vous avancez, vous prenez de la confiance. Et votre ambition peut-être se matérialise si vous avez beaucoup de souffle. Il faut avoir beaucoup de souffle. Alors, réussite court terme, c'est peu probable, mais ouais. Ça existe, mais c'est pas ça.
Alors Antoine Moineville, je me tourne vers vous. Donc vous aviez cette vision de ce que vous vouliez accomplir. Mais un élément de votre profession qui va parler aux entrepreneurs et aux aspirants entrepreneurs, c'est que quand on est alpiniste, on a l'idée précise de là où on veut aller au sommet, oui. Et en même temps, il faut se préparer à l'inconnu, à l'inattendu. Comment on se prépare à des choses qu'on ne peut pas prévoir ?
Comment on se prépare à des choses qu'on ne peut pas prévoir
Comment on gère l'inattendu ?
Comment on gère ? Moi, je pense que c'est la préparation, c'est les années d'expérience, en fait, quelque part. C'est pour revenir à ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire les échecs, les réussites, c'est qui font que finalement, petit à petit, on accumule une expérience qui fait qu'on apprend à se connaître face à l'inconnu. On arrive à, et du coup, à rester lucide en cas de, quand tous les voyants sont au rouge. On gagne un peu en force et du coup en lucidité face à une difficulté. Voilà. Nous, par exemple, je reviens d'une expédition, on va parler de celle de l'année dernière, on a essayé de tenter une montagne complètement réputée impossible parce que c'est dans une région la plus hostile du monde où il pleut tous les jours, il y a des tempêtes australes, c'est en Patagonie chilienne. On a fait une première tentative la première année et au bout de 6 jours d'aventure à travers la jungle, on a réussi à rejoindre le glacier. On s'est retrouvé, on a eu un accident, il y en a un de nous qui s'est cassé l'épaule. Voilà. Et 9 mois plus tard, on a décidé d'y retourner parce que finalement, on a échoué, mais pour nous, c'était pas tant un échec que ça, parce qu'on est dans une dimension où personne n'est mort, on a pris un risque considérable, personne n'est mort, on s'était préparé à toute éventualité, même l'éventualité de l'accident, l'accident au bout du monde, où personne viendra te chercher dans la journée, quoi. Et voilà, du coup, on est revenu de cette expérience où finalement on s'est aperçu qu'on avait fait 80% de l'exploration. On avait ouvert un chemin qui nous amenait au pied de cette montagne qui n'était encore jamais grimpée. Du coup, on s'est dit mais il faut absolument qu'on retente, quitte à attendre, quitte à avoir un mauvais temps, le mauvais temps qu'ils annoncent tous les jours là-bas normalement. Et finalement, c'est la deuxième fois, on n'a pas eu d'accident et mieux que ça, on a eu une météo fantastique. Et on a réussi. Du coup, il y a eu vraiment une dimension de persévérance. Très clairement, il y a une notion de culot aussi, parce qu'il faut quand même vraiment vouloir d'y retourner dans un pays où on a une chance sur 100 d'avoir un créneau météo. Et là, finalement, ça a marché. Du coup, je pense que le seul vrai mérite qu'on a eu là, c'est pas d'avoir été des super-héros, le mythe du super-héros guerrier, c'est surtout d'avoir eu le culot de provoquer la chance, quoi. Voilà, c'est ce petit grain de folie qu'on s'est permis de faire énormément aussi, du fait qu'on était une équipe soudée et tous complètement sur la même longueur d'onde sur ce dans quoi on s'embarquait, l'engagement. Une fois qu'on y est, il peut, face à l'inconnu, on prévoit pas tout et qu'il peut nous arriver des choses pas forcément très sympas. Mais si tu restes lucide, tu arrives à t'adapter et puis survivre. Voilà.
Je crois que c'est Pasteur qui disait que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés.
Ouais.
Anne-Laure Constanza, est-ce que vous avez su provoquer la chance dans votre parcours ?
C'est une bonne question. J'ai su m'écouter, je pense. Voilà, je suis partie en Chine à l'âge de 18 ans parce que j'étais passionnée par la Chine alors que j'étais censée intégrer la fac de médecine. Donc j'ai dit, après 2 mois de voyage en Chine, j'ai dit à mes parents, écoutez, non, je ne vais pas intégrer la fac de médecine, je vais apprendre le chinois, comprendre la Chine. Donc je pense que j'ai su m'écouter assez jeune, en fait. Ça a été ça, ma chance, en fait.
Alors, le contraire de la chance, c'est le risque, puisque dans toute décision, il y a une part de risque. Comment vous mesurez le risque aujourd'hui, et est-ce qu'au départ, vous le mesuriez précisément, ou vous en faisiez abstraction ?
Non, on mesure le risque. En fait, j'ai connu plusieurs échecs au cours de mon parcours entrepreneurial, ma première société et plusieurs autres en 10 ans de création d'Envie 13. Le risque est là. Maintenant, je sais très bien ce qu'il faut faire. Quand il est là, j'essaye d'abord d'extraire toute dimension émotionnelle. Parce que j'ai tendance un peu à... Je suis assez impulsive, donc dès que je sens quelque chose, j'ai envie de m'y plonger corps et âme sans avoir le recul nécessaire, etc. Donc j'essaye de me calmer un bon coup et de retirer toute dimension émotionnelle. Et ensuite, j'essaye de m'auto-convaincre de ne pas le faire, pour me tester, m'auto-tester et de bien sentir quelles sont les... toute seule, quelles sont toutes les conditions pour ne pas le faire. Et ensuite, j'essaye plutôt de me projeter vers le succès, en fait, de cette expérience.
Très bien. Alexandra, on dit souvent que le succès, c'est échouer encore jusqu'à ce que ça marche. Est-ce que c'est ce que vous constatez, et comment vous accompagnez les entrepreneurs pour qu'ils ne se laissent pas démonter par la première difficulté ?
Alors c'est vrai, c'est Churchill qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je pense que voilà, c'est un peu les cas qu'on a sur scène aujourd'hui vous le montrent. Et d'ailleurs, à ce sujet, je trouve ça... Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié et travaillé aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, si vous êtes entrepreneur et que vous arrivez devant un business angel ou un fonds d'investissement sans avoir échoué, ils vont vous regarder bizarrement. Alors qu'en France, c'est plutôt l'inverse. En général, on se dit on n'a pas le droit à l'échec. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer en tant qu'entrepreneur. C'est qu'un échec n'est pas grave. Ce qui va faire la différence, c'est l'entrepreneur qui continue et qui dépasse son échec. Nous, région pouvoir public, on essaye de déceler les pépites aussi qui vont marcher pour savoir qui on soutient. Alors on se trompe parfois, et là ce qui change un peu avec la nouvelle région, avec Valérie Pécresse, c'est que elle-même, est passée par le privé, ce qui est important. Enfin, moi aussi je suis passée par le privé, elle est entourée de gens quand même qui connaissent le monde de l'entreprise, qui est assez rare en politique, malheureusement. Et elle s'est entourée de chefs d'entreprise pour l'aider aussi à prendre ses décisions, parce que ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que voilà, faut s'entraider entre entrepreneurs, entre chefs d'entreprise, pour se donner des conseils et réussir justement à résister à ces échecs et à persévérer.
François Moutot, est-ce que vous avez le sentiment que l'échec est toujours aussi stigmatisant en France, ou est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on a enfin le droit de se tromper pour réussir?
Moi, j'aurais tendance à penser que quand vous parlez de risques, il y a quand même des risques de nature différente. Et quand vous parlez d'échecs, il y a des échecs de nature différente. Il y a les risques et les échecs qu'on prend vis-à-vis de soi-même et les risques et les échecs vis-à-vis des autres. Ce n'est pas tout à fait pareil quand on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas son métier ou si vous avez un de vos fournisseurs qui vous paye pas votre facture. Si vous voulez, il est évident qu'un chef d'entreprise va être confronté avec des risques externes et puis des risques internes. Pour les risques internes, je crois que pour éviter ces risques et ces échecs, il est évident que c'est la formation professionnelle, c'est l'encadrement, l'accompagnement. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire face à ces risques-là et que ces échecs-là sont quand même sujets à peut-être interrogation. En revanche, il est évident qu'aujourd'hui, quelqu'un, et malheureusement c'est assez fréquent, dont la banque a cessé la ligne de découvert parce qu'il y a un impayé, parce que c'était inadmissible, j'espère qu'il y a des banquiers dans la salle, on a là évidemment des aléas extérieurs, et c'est donc normal d'avoir un échec dans cette situation, et je crois qu'aujourd'hui, et nous on dirige une société mutuelle, quelqu'un qui a des échecs, on n'est pas encore comme aux USA, il faut un échec, mais je pense qu'on tient compte de cela si l'échec est externe. Si l'échec est interne, il faut quand même regarder si la gestion de l'entreprise est bien faite. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a passé cela et qu'il y a des grandes réussites de gens qui ont échoué plusieurs fois. Et c'est très bien qu'on puisse les accompagner parce que ceux-là, ils ont de l'expérience, ils se sont frottés aux réalités et donc ils sont endurcis, ils ont plus de qualité et encore plus d'audace, à mon avis.
Antoine Moineville, il y a un mot qui est connexe à celui de l'audace, c'est celui du courage. Une fois qu'on a eu l'audace de se lancer, il faut le courage de persévérer. Comment on fait pour continuer d'avancer dans la jungle, quand il pleut, quand on a froid, quand on n'est pas sûr d'y arriver? À quoi on se motive?
Alors, comment on fait? En fait, quand on est au pied d'un obstacle, ou quand on tente de franchir l'obstacle, forcément, moi ce que je me dis toujours, c'est que ça va finir à un moment. Ça passe, quoi. Quand on est dans le coup dur, c'est obligé. On va tous avoir ça dans notre vie, et encore plus quand on est dans l'aventure et face à une inconnue, où il y a des moments où il y a des doutes, il y a des vrais doutes. Et moi, j'ai réussi à ressentir quelque chose de très fort, finalement. Quand on est poussé dans nos retranchements, face à une difficulté, finalement, moi, j'ai l'impression que c'est des moments privilégiés où ça nous permet d'accéder à une force qu'on a tous en nous. Je pense que c'est tout être vivant à ça. On n'est pas obligé d'aller explorer une montagne au bout du monde pour l'avoir. C'est ce fameux instinct de survie, cette fameuse chose qui finalement quelque chose d'extrêmement bienveillant, qui est là, qui est porteur de vie et qui nous donne envie de une espèce d'énergie vivante qui nous dit d'aller de l'avant et de pas baisser les bras. Parce que de toute façon, quand on tente de grimper une montagne au bout du monde ou quand on veut monter une entreprise, quelque part on s'engage dans quelque chose. Donc à partir du moment où on est engagé, faire demi-tour, ça peut devenir problématique. Donc ça veut dire qu'il faut... on n'a plus trop le choix, finalement, il faut y aller, il faut avancer. Et si on va vraiment loin dans la démarche, qu'on rencontre des obstacles, il y a des moments où on accède à cette force qui s'endort dans nos sociétés civilisées où il y a du confort et qu'on retrouve justement dans cette difficulté. On sort de cette zone de confort et on accède à cette force de vie, cet instinct de survie qui nous permet de nous dépasser finalement.
Moed Altrat, je me tourne vers vous. Est-ce que l'enfance difficile que vous avez vécue s'est révélée être un moteur dans les difficultés que vous avez pu connaître après dans votre carrière d'entrepreneur?
C'est sûrement, ça fait partie, vous savez, on se construit dans la vie, on avance avec les difficultés, on vit les difficultés, ça véhicule votre enfance, votre adolescence, toute la détresse qui peut accompagner une enfance, ça reste là, c'est un sac qu'on porte sur le dos. Mais c'est sûr, ça forge un caractère, ça vous donne une certaine posture face à l'adversité, et ça vous construit. Mais je voulais juste dire quelque chose.
Je vous en prie.
La notion d'échec, généralement, je peux vous dire, 80% des échecs qu'on rencontre en France dans l'entrepreneuriat, c'est que le projet est vicié dès le départ. Donc ce n'est pas un échec, c'est un échec pas à l'arrivée, mais un échec au départ en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir finalement une entreprise qui se construit alors que le client n'est pas défini. Le produit, si le client est défini, le produit n'est pas celui que le client veut. Ce n'est pas le prix que le client est prêt à payer par rapport à la qualité et à l'utilité du produit que vous cherchez à lui vendre. Ce n'est pas tout à fait le service qui est souhaité. Et c'est peut-être pas le moment non plus de les vendre ou pour les clients d'acheter. Donc c'est une forme d'appréciation. On dit dans le sport quelque chose, un mot qui est très intéressant, la notion d'être holistique. Notre ami sportif, il doit le savoir. C'est-à-dire il faut connaître où vous êtes à tout moment, dans le temps et dans l'espace. Appréciez cette faculté que vous avez pour rebondir et pour retomber sur vos pattes à tout moment. Donc l'échec, pour moi, ça ne devrait pas exister, en quelque sorte, si on a vu la chose dès le départ. Mais je ne suis pas en train de dire que tous les projets doivent être ficelés 100% dès le départ et voilà, que j'ai le produit qu'il faut, que j'ai le client qu'il faut, que j'ai le financement qu'il faut, que j'ai tout quoi, pour que ça marche. Je dis que ce n'est pas ça. Je dis tout simplement, vous devez... Il y a une dose de savoir-faire, de connaissance, ce que monsieur appelle le savoir, mais une dose aussi de ce que j'appelle la partie technique, mais une dose de quelque chose, d'appréciation globale du contexte dans lequel vous évoluez. Et enfin, la partie la plus importante, ce que vous portez en vous-même en tant que porteur de projet, la conviction, et la confiance que vous vous accordez à vous-même pour réussir dans vos projets. Et c'est ça qui fera la différence. Très souvent, les grandes réalisations, très souvent aussi, la différence entre échec et réussite, c'est très maigre. Vous pouvez, à un moment donné, vous avancer sur un chemin très étroit, vous regardez en bas, vous avez le vertige. Vous réussissez comme il le fait, vous réussissez. Si vous tombez, c'est fini, c'est perdu. Et je dis, ces attributs personnels qu'on doit avoir en tant que chef d'entreprise, sachez dès le départ que vous allez être confronté à des difficultés. Vous allez devoir courber les chines à un moment donné. Vous allez devoir courber le dos et vous allez avoir traversé des orages, des tempêtes de neige, que sais-je encore de moments où on ne savait pas où vous devez aller. C'est en ce moment-là que vous allez sortir dans vos tripes, dans vous-même, au fond de vous-même, des ressources insoupçonnées que vous allez trouver.
Alors je me demandais justement, aussi bien au moment de se lancer que plus tard dans les difficultés, est-ce que chacun, vous aviez des modèles, des parcours, soit d'entrepreneurs, soit de héros de fiction, qui vous ont aidé, qui vous ont inspiré ?
Alors moi, personnellement, pas du tout de héros de fiction, plutôt des gens qui m'inspirent au quotidien, que ce soit des entrepreneurs ou non. Hier, j'étais par exemple avec une infirmière qui travaille dans une prison. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Donc c'est plutôt vraiment des gens que je rencontre au quotidien qui me nourrissent. C'est vrai que j'ai une admiration particulière pour les sportifs de haut niveau, que je côtoie aussi, et pour les personnes handicapées. C'est un monde voilà, que je connais bien et je considère que ce sont des surhumains, en fait. Donc j'ai beaucoup d'admiration et je puise aussi beaucoup d'inspiration auprès de ces personnes.
Antoine, est-ce qu'il y a des parcours qui vous inspirent dans votre discipline ?
Pas forcément. Moi, j'ai été très inspiré par des amis qui sont désormais dans le collectif des Flying Frenchies, qui sont des artistes qui m'ont ouvert du coup d'autres champs d'exploration et qui m'a permis de vivre d'une manière très similaire à ce que je vis en alpinisme, des choses complètement différentes qui sont plutôt dans le domaine de l'art, en fait. Voilà. L'aventure, c'est quelque chose de très large.
Les disciplines, oui.
De croiser les disciplines et ce qui m'a permis de comprendre que pour moi, je suis pas sportif, je suis plus aventurier, c'est-à-dire... Le sport, c'est trop réducteur et par rapport à ce qu'on dit, autant en montagne que avec les Flying Trenches, et où on mixe l'art et le sport extrême. Voilà, j'étais très inspiré par les artistes que j'ai rencontrés à ces occasions.
Alexandra, si vous-même, vous avez un parcours d'entrepreneur, quelles ont été vos sources d'inspiration ?
Alors moi, ce n'est pas forcément des stars, mais c'est des petits entrepreneurs que j'ai rencontrés quand j'habitais aux États-Unis, en me disant, mais pourquoi on n'a pas ça en France ? Et l'envie de le faire pour mon pays et voilà, et pour les gens ici. Donc c'était plutôt en les voyant avec ces idées et me dire, mais il faut faire la même chose pour la France.
François Moutot, parmi tous les artisans que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des gens qui vous citent des modèles récurrents?
Je trouve qu'il y a deux sortes de modèles. Il y a le modèle, peut-être classique, peut-être pas emblématique, mais du carreleur qui a passé 7, 8, 9 ans, 10 ans dans une entreprise, et puis qui s'est mis à faire du carrelage, éventuellement un peu différent des autres, mais il a une vie absolument extraordinaire parce qu'il est arrivé dans sa continuité. Pour moi, c'est autant un exemple. Alors j'en ai d'autres. J'ai des choses assez amusantes. Le restaurateur qui va acheter des couteaux et qui achète la coutellerie. Vous avez un gars qui se lance dans les parapluies. Bon, il est installé à Cherbourg, ce qui peut aider pour les parapluies, mais si vous voulez, il a inventé le parapluie protecteur, et donc le président des États-Unis est certainement le nôtre, est protégé par un parapluie. Il est arrivé au bout de son modèle, il est parti du parapluie, qui est quand même quelque chose de relativement simple, alors qu'il n'était pas de son secteur. Puis, dernier exemple, je prendrai, je ne veux pas écorcher son nom, c'est Olivier de Surmont. Olivier de Surmont, à 26 ans, il a vendu sa voiture pour faire du lavage de voiture sans eau. Pas la boucherie, hein, le sans eau. Et on a là un gars qui a poussé ses idées. Il emploie que des personnes qui sont en difficulté et qui viennent de quartiers difficiles. Il emploie que des produits écologiques et puis que des produits innovants. Il a 40 ans, 400 salariés.
Mohamed Altrad, quelles sont les personnalités qui vous ont inspiré dans votre parcours ?
Les grandes réalisations, je ne sais pas, je voulais vous dire une chose. Donc, en tant que chef d'entreprise, j'en ai pas, je suis désolé, il y en a beaucoup, je pourrais citer beaucoup, en toute modestie. Mais je dis, des grands hommes qui m'ont inspiré, c'est Nelson Mandela, pour tout ce qu'il a fait. Jeune, il savait ce qu'il attendait, il y est allé. Et ça mérite respect, ça mérite admiration. Ce que je voulais vous dire, la réussite aussi, c'est une vision dans la vie. Beaucoup de chefs d'entreprise que je vois, quelle que soit la taille, ça peut être des petits, des grands, ce que vous voulez. La réussite pour eux, c'est accumuler des richesses et se les mettre dans la poche. Pour moi, c'est un échec. La réussite, c'est effectivement créer des richesses. Pour que ces richesses soient réinvesties dans l'entreprise, il faut en profiter au passage, mais pas la totalité. Et puis que ces richesses rejaillissent sur l'entreprise elle-même et surtout ses composantes. C'est le salarié, c'est le fournisseur, c'est le client, c'est l'État français parce qu'il a besoin d'impôts, mais c'est tout son environnement. C'est la cité qui entoure l'entreprise, c'est cette conception humaniste de l'entreprise. L'argent, la réussite, jugée par la quantité d'argent que vous allez éventuellement récolter, c'est une manifestation de la réussite, ce n'est pas la réussite du tout. Donc ce n'est pas la même chose, il ne faut pas inverser la chose. C'est comme ça que je vois l'entreprise, et je dis, par rapport à l'échec, à la réussite que vous avez, Mathieu, mentionné tout à l'heure, je dis, lorsqu'on commence sur un concept de dire « je fais une entreprise pour m'enrichir », on commence mal, vous comprenez, parce que tout de suite, votre salarié va le sentir, votre fournisseur va le sentir, votre banquier probablement va le sentir, et vous créez un contexte de méfiance autour de vous. Or, il faut créer la confiance et inspirer la confiance pour que tout ce monde-là puisse être fédéré par vous, vous porter et vous les porter. Souvent, le chef d'entreprise, dans des périodes difficiles, on est tous à l'image de la vie. On a des familles, on peut être malade, on peut avoir des drames dans notre vie. C'est en ce moment-là que vous devez trouver la possibilité d'aller chercher la force chez l'autre. L'autre, c'est vous-même, c'est votre collaborateur, c'est votre entourage justement, et réciproquement, parce que ça se produira un jour pour l'autre. Je dis, c'est ça la réussite de l'entreprise. Après, si vous faites ça, mais vous aurez de l'argent de toute façon.
Alors, pour revenir sur un aspect plus individuel, Antoine Moineville, j'aimerais savoir ce qu'on découvre de soi lorsqu'on accomplit quelque chose qu'on ne se croyait pas capable d'accomplir.
On n'avait pas préparé la question. Qu'est-ce qu'on découvre de soi ?
Comment on se sent quand on a accompli quelque chose en prenant des risques, en ayant l'audace de se lancer, on n'était pas sûr d'y arriver, ça a marché. Est-ce que c'est ça le moteur qui permet de continuer ?
Comment on se sent ? Moi, je dirais, c'est pas une fois qu'on est arrivé au sommet de la montagne qu'on a l'impression. C'est là où on a la plus grande joie. Mais c'est pas là qu'on est. C'est pas fini en fait. Le vrai ressenti, c'est dans le souvenir une fois que c'est fini. Moi j'ai l'impression qu'en fait la tête, la cervelle humaine est comme vraiment bien faite, parce que tous les moments de souffrance qu'on endure pendant le développement d'un projet, en fait une fois qu'on a accompli ça. On oublie la souffrance qu'a eue, on garde que le bon finalement. Et tout ce qui a été souffrance devient une anecdote qui fait rire et qu'on raconte à nos petits-enfants en rigolant quelque part. Et voilà, je sais pas si...
Alors, une fois que l'entreprise a grossi, comment on transmet l'envie d'oser à ses équipes ?
Alors pour moi, il existe trois choses. La première, c'est la confiance. On ne peut pas transmettre l'audace ou rendre les gens audacieux si à la base on n'est pas dans un climat de confiance. Donc la première chose pour libérer l'audace, c'est créer vraiment un vrai climat de confiance au sein de l'entreprise. Ensuite, c'est avoir une vision claire. Je pense que quand on a une vision claire, on sait quand il faut prendre des risques et quand il ne faut pas en prendre. Et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, en fait. La troisième chose, c'est l'agilité. Pour une entreprise lente, c'est absolument impossible d'être audacieux. Si on est agile, en fait, on ne prend pas tellement de risques puisque on peut tout de suite se corriger et donc voilà. C'est vrai que l'agilité, c'est une dimension très importante pour moi pour libérer l'audace. Parce que ça permet on peut tester plein de nouvelles choses, ça libère l'innovation aussi. Donc nous, en fait, chaque année, on investit environ quelques centaines de milliers d'euros dans des projets totalement audacieux, qui n'ont absolument rien à voir avec Envie 13, avec le risque de perdre et de pouvoir corriger très vite au bout de deux mois si ça ne marche pas. Voilà.
François Moutot, je me tourne vers vous. Est-ce que parfois vous avez l'impression de devoir aider les gens à garder la flamme ?
Bien entendu. Si vous voulez, une entreprise, mon président dit toujours, c'est comme un enfant. On sait qu'il va être, il va tousser, on sait qu'il va avoir de la fièvre, on sait qu'il va être malade. On a l'impression en France qu'il faut que les entreprises ne toussent pas, n'aient jamais la fièvre et ne soient jamais malades. Or, il est évident qu'elles vont avoir des difficultés, qu'elles vont traverser de très très grosses difficultés. Et là, il faut des dispositifs d'accompagnement au moment des difficultés. Ce sont les crédits bancaires, j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi éventuellement des défis techniques, des technologies qui changent. Et pour ça, il faut effectivement des accompagnateurs qui permettent aux chefs d'entreprise de souffler un peu à certains moments pour lui permettre de repartir. Et on essaie, le réseau des chambres de métiers, à notre petit niveau, mais quand même dans tous les départements de France, d'assurer un petit peu ce maintien et surtout de passer les grosses difficultés avec d'autres réseaux qui sont ici représentés.
Alexandra ?
Oui, je pense que nous, le rôle qu'on peut jouer aussi, c'est d'être un vis-à-vis des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on monte sa boîte, parfois on se sent un peu seul, même si on est plusieurs à la monter ensemble. Et donc avoir, nous, on a des conseillers qui ont vu des centaines de cas, voire des milliers, et qui ont vu ces petits engages, etc., et qui sont capables, parfois, hein, pas dans tous les cas, mais d'orienter et de conseiller dans ces cas-là et d'essayer de continuer à motiver l'entrepreneur. Donc nous, encore une fois, je pense qu'on est là pour pour faciliter, pour ouvrir le champ des possibles et puis pour être là, avoir quelqu'un avec qui confronter son projet et aussi ses difficultés au jour le jour.
Eh bien, merci. On va à présent arriver à la conclusion de cette table ronde. Voilà, pour conclure, un tout petit mot. J'espère que vous avez bien compris que ce n'est pas l'occasion qui fait le larron, mais bien le larron qui fait l'occasion, et que l'audace ouvre les opportunités. Merci à tous.